Là, on peut imaginer, hein, c'est l'étoile, c'est le milieu de la forêt. On imagine l'Arc de Triomphe avec ses 12 allées. Et là, on a l'étoile avec toutes les directions, avec 8 routes forestières autour. Et donc là, c'est les 700 tracteurs qui sont arrivés là. Ils savaient pas où c'est qu'ils allaient, en fait. Et il n'y avait que les 12 responsables qui savaient. Parce qu'ils avaient tellement peur d'être bloqués avant d'arriver par les gendarmes. Donc ils ont décidé d'aller à la Pichonnière directement à Bonnefoy, qui est en gros à bon 20 km d'ici.
Illustration de l'opposition des agriculteurs, l'assaut donné hier matin à la propriété de M. Montcorgé. Entendez Jean Gabin au cinéma.
Interactualité, 29 juillet 1962.
700 agriculteurs de l'Orne ont cerné à 4 heures la ferme qu'occupe l'acteur de cinéma et l'ont accusé d'être un cumulard, d'avoir trop agrandi le domaine qu'il possède. Tout s'est passé à peu près paisiblement, mais Gabin a dû promettre qu'il revendrait prochainement deux de ses fermes. Ultérieurement, le gérant de l'exploitation a fait connaître les réactions de son patron. Monsieur Gabin est écœuré, a-t-il dit. Il y a 20 ans, en Amérique, il a renoncé à bien des contrats pour s'engager dans l'armée de la libération. Il pouvait prétendre à disposer du sol de France. Ajoutons qu'en effet, nombreux sont ceux qui voient dans la limitation des achats une atteinte à la liberté de chacun, même si l'on n'est plus au temps du retour à la terre.
L'affaire Jean Gabin. Épisode 1. Un paysan vedette. Un documentaire de Pauline Maucor, réalisé par Cécile Lafont.
Mois de juillet, c'était une nuit calme, beau temps, chaude, et tout le monde était prêt à partir et puis dans l'action.
Jean-Pierre Prévost, agriculteur retraité, syndiqué FDSEA.
Vous auriez aimé vivre ce moment ?
Ah, je pense que oui, ouais. J'aurais eu 15 ans de plus. Et j'aurais peut-être été même dans les 12 leaders. Parce que c'est vrai que bon, ça fait quand même évoluer beaucoup de choses au niveau de l'agriculture.
Mon père, ce qu'il m'a raconté au niveau de l'organisation...
Denis Mousset, fils d'André, agriculteur retraité, syndiqué FDSEA.
Comme les agriculteurs se rassemblaient à des lieux-dits ou des chefs-lieux de canton, pour pouvoir arriver vers 4h30 précises à la ferme à Jean Gabin, il fallait que ce soit chronométré avant. Et donc, les parcours avaient été faits avant avec une deux chevaux. Et donc, quand ils sont arrivés chez Jean Gabin, mon père m'a dit qu'il doit y avoir trois routes pour arriver là-bas, de mémoire de ce qu'il m'a dit. Et on voyait les phares comme un faisceau lumineux qui arrivait des trois côtés.
Et puis, on avait mis un gars chez Jean Gabin pour surveiller qu'il soit bien là. Un autre qui devait couper les fils téléphoniques.
Bernard Mousset, agriculteur retraité, syndiqué FDSEA.
Et le lendemain matin, il y avait 700 personnes à son portail. C'est incroyable.
D'après ce que j'ai pu entendre dire, ils ont été réveillés, Jean Gabin, à 4 ou 5 heures du matin, en disant « c'est l'heure du laitier ».
Thierry Ganivet, agriculteur, syndiqué FDSEA.
Donc c'était pour l'image des producteurs de lait qui se lèvent de bonne heure pour faire leur travail, ce qui n'était pas forcément le cas de Jean Gabin, qui n'était pas agriculteur.
Donc on a sonné, mais il était 6 heures du matin. Le gardien est venu et a demandé ce qu'on voulait. On a dit qu'on voulait parler à Jean Gabin, à Monsieur Gabin. Et il a dit, il n'est pas levé, il ne va pas vous recevoir à cette heure-là. Ben, on a dit, s'il ne veut pas nous recevoir, nous on va y aller. On va aller le réveiller. Si bien que le ton montait un peu, donc il a été prévenir Jean Gabin. Et Jean Gabin nous a laissé rentrer, mais une délégation, c'est tout. Hein.
Pour être sûr qu'il n'y ait pas de communication d'établi. Ils ont coupé les fils téléphoniques, donc ce qui a permis aussi qu'il n'y ait aucune force de l'ordre de prévenu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le téléphone filaire pour prévenir les forces de l'ordre. Et il n'y a pas eu d'intervention de force de l'ordre. Tout s'est réglé entre hommes, avec beaucoup de savoir-vivre.
On a entendu parler de ça après.
Hubert Mousset, fils d'André, agriculteur retraité, syndiqué FDSEA.
Il y avait un des équipes qui avait été chargé de couper le téléphone de Jean Gabin. Et ça, c'est, apparemment, ça fait partie des petites choses qui ne lui ont pas plu. Quoi, hein. La chose qui ne lui a pas plu. Pas pouvoir se défendre, en fait.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la terre, Jean Gabin ?
RTF, 14 septembre 1963.
Bon, ça, vous savez, je l'ai toujours eu. Quand j'étais enfant, j'aimais la terre. Et puis alors, il y a surtout une chose qui est prépondérante, c'est que...
Oui.
Le métier d'acteur, c'est tout de même une profession très aléatoire. Et je me suis aperçu, quand je suis revenu de la guerre, en 1945, où je ne faisais plus les films que je faisais avant, je me suis dit, ça peut me lâcher.
Oui.
Et c'est là où j'ai acheté ma première ferme, parce que j'ai pensé, d'abord aimant ça, et j'ai pensé que toujours je pourrais arriver à vivre et à élever déjà mes deux premières filles qui étaient nées.
Oui.
Les élever décemment, quoi, correctement, n'ayant pas... Moi, vous savez, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas... J'aurais pu mettre de l'argent à l'étranger, je ne l'ai pas fait, j'ai acheté des terres, quoi, c'est tout en France.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire...
Avec ses cachets, l'acteur a acheté 7 fermes, dont 160 hectares à Bonnefoy, près de Moulins-la-Marche, une ferme de 25 hectares à Digny, dans l'Eure-et-Loir, une autre de 40 hectares au Merleroux. Total 225 hectares, représentant environ 225 millions d'anciens francs, si l'on compte les 10 000 mètres carrés à 1 million. France Soir, 31 juillet 1962.
C'est pour les gosses que j'ai acheté ces terres. Si jamais je suis défiguré par un accident, je serais bien content d'être aussi éleveur de bœufs ou de chevaux. Acteur, c'est pas un métier, c'est tout juste une profession.
Jean Gabin se considérait comme paysan, or tous les gens autour ne le voyaient pas comme un paysan, mais le voyaient comme un artiste et comme un financier. Et c'est un peu le reproche qui lui était fait de dire il accapare des terres au détriment des jeunes qui revenaient pour un certain nombre de la guerre d'Algérie. Et là, il y avait une recherche conséquente d'exploitation. Et il y avait ce monsieur Gabin qui reprenait énormément de foncier, puisque de mémoire, il avait dû reprendre autour de 300 hectares autour de la Pichonnière. Et c'était peut-être aussi pour marquer l'opinion publique en disant on ne veut pas qu'il y ait d'autres artistes ou investisseurs, entre guillemets, qui s'accaparent des terres dont on a besoin. Parce qu'en réalité, Jean Gabin, est-ce qu'il avait besoin de 300 hectares pour vivre à l'époque ? C'était la grande question, à mon avis, qui devait se poser. Et non, à l'époque, 40-50 hectares suffisaient très largement pour vivre. Ce qui voulait dire que 300 hectares, on mettait 5, 6, 7 exploitants en place.
L'affaire Jean Gabin s'inscrit dans un double contexte relativement tendu de relations entre le monde agricole et le gouvernement de Charles de Gaulle, hein, suite à l'arrivée de la Ve République, puisque des mesures mal acceptées par les agriculteurs ont provoqué déjà des mouvements importants, hein, dans les années 1960, avec des grandes manifestations de masse pour protester contre en partie pour la faiblesse des revenus agricoles.
Édouard Lynch, historien.
Et face à ça, le gouvernement va prendre un certain nombre de mesures et notamment voter une première grande loi, dite loi d'orientation agricole, qui est censée apporter un certain nombre de solutions. Et en fait, ces solutions vont pas vraiment être efficaces. Et donc, vous allez avoir, à partir de l'année 61 et 62, une deuxième vague de mobilisation pour avoir des réponses immédiates. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de toutes ces opérations de pression, que l'affaire Gabin va opérer. Voilà, Jean Gabin veut reprendre, en fait, pour sa propre exploitation, une terre qui était en fermage, hein, donc elle était exploitée par un agriculteur, et donc il veut récupérer la terre en tant que propriétaire pour étendre, en fait, son exploitation et notamment son élevage de chevaux de course. Et évidemment, cette décision, elle passe très mal et elle va susciter une mobilisation exemplaire à l'été 62.
Pour construire son beau et grand domaine, Jean Gabin a fait raser des fermes à coups de bulldozer. Les fermiers ont ramassé leurs meubles et sont partis, les uns à l'usine, les autres en quête d'une nouvelle ferme. Gabin est honnête, tout cela est fort légal, mais c'est injuste, disent les paysans. Paris Presse, 1er août 1962.
parce que le principe même du fermage, c'est que vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire d'une terre. Donc voilà, vous avez un bail, c'est comme un appartement. Et donc, ben, quand le bail est à échéance, le propriétaire peut décider de récupérer le terre, notamment s'il la récupère pour lui, et c'est le cas du propriétaire. Donc légalement, Jean Gabin, il est dans son droit. En revanche, évidemment, dans l'esprit des agriculteurs, auxquels on explique qu'il faut qu'ils se modernisent, qui ont besoin de terre pour mettre en place cette fameuse révolution agricole, bah, pour eux, évidemment, c'est une injustice sociale que des gens qui n'ont pas besoin de terre en plus, voilà, qui sont des gens riches, qui sont des sortes de rentiers de la terre, qui utilisent la terre pour leur plaisir, eh bien, évidemment, on va leur opposer une famille de petits exploitants qui ont des enfants à nourrir, qui ont souvent mis en valeur cette terre, parce que c'est toujours aussi la question du fermage. Les exploitants, quand ils travaillent sur les fermes, bah, ils les entretiennent, ils investissent dedans. Bah, évidemment, quand ils sont mis dehors, entre guillemets, pas du jour au lendemain, mais enfin, en tout cas, ils sont privés de leur terre, bah, évidemment, c'est une injustice. Et ça, le syndicalisme agricole va se lever contre.
Clairement, même si c'est une propriété parmi d'autres.
Yannick Sansébé, sociologue.
On est vraiment dans le début, ou la concrétisation forte d'un choix de modernisation, de liquidation de la paysannerie, d'industrialisation de l'agriculture, mais de tout le pays, hein, finalement, et qui, autour de cette propriété de Jean Gabin, cristallise des injustices qui sont vécues par ceux qui n'ont pas accès à suffisamment de terres pour prendre le chemin de la modernisation, justement, qui cristallise des inégalités sociales, de revenus qui existent aussi par ailleurs dans la profession, et qui montre aussi le début d'organisation des paysans, enfin qui ne sont plus des paysans, des agriculteurs, de ces jeunes agriculteurs qui vont prendre en main les rênes de la profession.
Dans la vie politique française, c'est l'entracte. Les députés et les sénateurs sont partis en vacances, mais le dernier projet de loi examiné et adopté, celui qui concerne l'agriculture, aura la semaine prochaine des prolongements.
Interactualité, 29 juillet 1962.
C'est en effet mercredi que le conseil d'administration de la FNSEA se réunira pour faire le point de la situation, pour examiner le texte définitif de la loi complémentaire. Jusqu'à présent, les principales manifestations étaient motivées par la hantise des petits agriculteurs, c'est-à-dire le cumul des terres. Désormais, il faudra une autorisation préfectorale, sauf quelques cas limités, pour agrandir un domaine déjà étendu.
L'augmentation de la taille des exploitations, elle se heurte à des conflits, hein, des conflits d'intérêts, parce qu'évidemment, tout le monde veut agrandir sa terre. Et ces tensions foncières vont s'imposer progressivement dans l'agenda, à partir du milieu, enfin, des années 61-62, où... en particulier sous l'influence des jeunes agriculteurs, des mouvements vont être organisés pour tenter de faire pression lors des cessions de terres, lors des mises des séances de vente, lors des mises aux enchères, pour essayer que les agriculteurs soient favorisés. Et ce processus, hein, les jeunes agriculteurs voudraient qu'il soit mis en place, en tout cas qu'il soit appuyé par la loi. Et donc il y a des négociations qui sont en cours avec le gouvernement pour aboutir à un système qui s'appellera les SAFER, hein, qui seront mis en place en 1962.
Un responsable de la Manche qui était à Paris et puis qui est revenu en disant le plan d'orientation de l'agriculture va être voté dans les jours qui suivent. Donc il a arrêté chez Gérard Potier et Gérard Potier il dit moi tout seul je peux rien faire. Il est venu voir André,
votre frère.
Et puis, moi, après, la maison n'était pas faite, il y avait de la luzerne ici. Ça a été décidé ici. On était tous les trois, on disait qu'est-ce qu'on fait pour que ça fasse du bruit et faire passer la loi d'orientation. Et c'est de là qu'on s'est dit, il y a des grands cumulards, mais ça ne va pas faire de bruit. Et on a pensé à Jean Gabin. C'était pas le plus grand cumulard, mais c'était l'homme qui était idéal pour faire du bruit. il était connu par tout le monde.
L'action d'une directe telle que vous l'avez pratiquée, M. Potier, n'est-elle pas un très grave précédent ?
RTF, 2 août 1962.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas que d'entrer chez quelqu'un le matin à 4h30 ou à 5h15, n'est pas une infraction pénale.
Oh, je ne le pense pas. Vous pensez surtout que nous avions fait preuve d'une correction, je dirais, mais exemplaire, disons-le.
L'origine, il y a un homme qui s'appelait Gérard Potier.
D'ailleurs, M. Gabin le reconnaît lui-même.
Il a mené tout ça, c'est un leader qui a rameuté un noyau. Et ce noyau, je pense, ça a fait boule de neige pour créer un groupe pour intervenir. Parce que je pense qu'à l'époque, ils se sont dit il ne faut pas être trois pour aller voir Jean Gabin, sinon on va passer pour des rigolos, entre guillemets. Il faut vraiment l'effet de masse pour que ça fasse pression.
Bah lui, il était dynamique, actif, et puis il menait sa ferme rondement de nez. Mais très sympathique, ouvert à tout. Mais il savait ce qu'il voulait. Et lui, c'était, s'il avait décidé que ça serait comme ça, c'était comme ça. Il était responsable du canton à l'époque. Donc il était quand même respecté, apprécié. Tous les agriculteurs avaient confiance en lui.
Est-ce que vous vous rendez compte, couper des câbles téléphoniques, quand même, c'est assez grave, non?
Oh, supposons qu'il y ait eu un câble téléphonique de coupé, je dis supposons, eh bien, pour moi, c'est pas tellement grave. Hein. S'il tombe un arbre sur la ligne téléphonique, les dégâts sont beaucoup plus importants.
Ce n'est pas un château, pas un manoir, c'est une maison, une vraie, avec de la pierre nue, saine, des portes-fenêtres immenses et tout autour la Normandie, verte, grasse, des prairies avec des barrières blanches, une herbe qui prend la maison d'assaut sans laisser de place aux fleurs. C'est là qu'ils sont venus, à 700, en pleine nuit, se plaindre à Gabin.
Jean Gabin a accepté de les recevoir aussitôt. Il s'est peut-être aussi rendu compte qu'il fallait qu'il les reçoive pour pas que ça dégénère. Et la remarque, petite anecdote, et Jean Gabin a dit « je n'aurai pas cette chaise pour tout le monde ».
Et là, on a discuté pendant 3 heures dans son bureau, c'est une pièce. On lui a demandé de laisser les deux fermes qu'il avait. Il gardait la Bichonnière. Il était d'accord. Mais, d'accord. Pas tout de suite, hein. Ça a demandé réflexion quand même.
Tout seul, on est toujours impressionné par personne en face de soi. Quand il y a un groupe, on se dit non, on est là, on va dominer. Et ils ont peut-être aussi agi dans ce sens-là en disant « on va dominer Jean Gabin ».
Il fumait des cigarettes, il les fumait à moitié, il les balançait par terre de colère. Il n'avait pas la parole, hein. Il y avait du monde autour. Et puis il nous a dit « je croyais qu'avec mon argent, je pourrais faire ce que je voulais ». Nous, on a répondu que même avec de l'argent, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il faut penser un peu aux autres. On avait demandé à des gars de surveiller que personne ne rentre. On ne voulait pas de massacrer son logement. Au bout d'un moment, ils ont été débordés. Tout le monde a passé par-dessus les murs. Il a fallu arrêter parce que... Mais il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Hein. Quelques tuiles sur les murs ont été cassées, mais ce n'était pas très grave.
Un de leurs gros soucis qui était quand même quand ils ont mené cette action-là, et ça, mon papa me l'a toujours dit, c'est de dire on n'a fait aucune dégradation. Et ça, pour eux, c'était un exploit. Il y aurait pu y avoir des barrières ouvertes pour les animaux, des arbres d'arrachés, le portail saccagé, ou des vitres cassées aussi. Et non, Gérard Potier, je pense qu'à l'époque, il a su tenir ses troupes en disant on ne vient pas pour casser.
Hier, c'est Jean Moncorgé, assisté de Maître Floriot, qui a porté plainte contre X pour déprédation, bris de clôture, tentative d'extorsion de signature. Maintenant, c'est fait. Jean Gabin s'est laissé tomber dans son fauteuil devant un verre d'eau minérale. Il est là et amer. Et vos fermes, allez-vous les vendre maintenant?
Oh, moi, je m'en fous. Je ne sais plus. Maître Floriot ne veut pas. Il dit qu'il ne faut pas céder.
L'affaire Jean Gabin a été le déclenchement, et on peut le dire comme ça, le déclenchement au travers des médias et au travers de toute la France d'un phénomène général dans ce pays. Et lui, c'était peut-être le moins pire, parce qu'au moins il y avait de la sincérité.
Raymond Girardi, agriculteur, coprésident du MODEF.
Si j'avais été voisin à l'époque, j'étais très loin de Jean Gabin, peut-être pêcheur est allé le voir pour lui dire « On comprend la démarche des racines, de l'attachement au monde rural, mais il ne faut pas acheter les petites exploitations autour, il faut plutôt les laisser se développer. » Mais sur la démarche, il y avait quand même de la sincérité. On ne peut pas lui enlever ça. Donc c'est pour ça que ça faisait débat.
Mais avez-vous gardé des amis dans le village ? On vous a écrit des lettres d'encouragement ?
Oui, regardez sur le bureau. Il en arrive tous les jours. Il y en a eu 13 d'injures, bien sûr, dont 7 anonymes. Dans le village, ils ont été gentils. Et même les gars de la fédération m'ont téléphoné pour me dire qu'ils désapprouvaient l'affaire. Seulement, tout est gâché. Je ne pourrai plus jamais rencontrer un gars d'ici sans me dire qu'il était peut-être là cette nuit-là, qu'il me déteste peut-être, au fond. Alors je me sens étranger, mal à l'aise. Je suis un tendre. Maintenant, pour ma femme, comme pour moi, il y a quelque chose de cassé. Je voulais me faire enterrer ici. Vous vous rendez compte ?
Et dans l'indignation de sa voix, flotte une stupéfaction douloureuse, une lassitude infinie.
Cette nuit-là, ils ont pissé sur mes rosiers.
Paris Presse, 23 août 1962.
Gérard Potier, vous êtes le responsable régional de la Fédération des exploitants agricoles de l'Orne et à ce titre, le principal responsable de la manifestation organisée samedi dernier chez Jean Gabin.
Nous avons voulu attirer l'attention des pouvoirs publics, nous avons voulu attirer l'attention de l'opinion publique sur le cas de tous les cumuls abusifs non professionnels.
RTF, 2 août 1962.
Nous avons choisi M. Jean Gabin parce que c'était le cas typique de la région, mais c'est tout.
Moi, il me semble que vous allez très vite lorsque déjà vous jugez négatif l'apport des supercapitaux, comme vous les appelez, dans l'agriculture.
On les juge négatifs parce qu'il y a cumul de professions.
Je crois que c'est vraiment pas du cinéma, c'est le cas de le dire. Il est très très peiné. Il se croyait des vôtres, est-ce que maintenant il n'est plus des vôtres ?
Il peut rester des nôtres, d'ailleurs c'est ce que nous l'avons dit. Nous n'attaquons pas à M. Jean Gabin, c'est au cumul dans l'ensemble. M. Jean Gabin peut très bien rester des nôtres. D'abord, nous lui avons dit, restez des nôtres, votre domaine vous l'avez créé aux arbres, nous le concevons bien, ça a débuté il y a 10 ans, nous comprenons bien que vous êtes attachés à cette terre, mais comprenez d'un autre part que nous qui sommes nés à cette terre, nous sommes aussi attachés à cette terre qui nous échappe. Notre outil de travail nous échappe totalement maintenant, du fait de vos actes, mais même également ce fonds d'exploitation nous échappe, puisque nous sommes évincés.
Et oui, quand on parle d'incident, on ne peut évidemment que penser, entre autres, à l'affaire Jean Gabin. Cette affaire qui a eu aujourd'hui une suite, l'acteur français s'est rendu au palais de justice d'Alençon pour déposer une plainte contre les cultivateurs qui avaient envahi sa propriété.
C'est une plainte assez complexe d'ailleurs, mais enfin...
J'avais dit qu'il porterait pas plainte, puis c'est quand même un acteur de cinéma. Donc,
c'était pas à moi de m'en occuper, que c'était au gouvernement et au pouvoir public. Mais moi, personnellement, je suis encore à me demander pourquoi ces revendications ont été faites chez moi.
J'avais 7 ans quand il y a eu l'affaire Gabin, quand ils sont débarqués là-bas. J'ai quelques souvenirs.
Anne-Marie Paris-Mousset, fille aînée d'André Mousset.
C'est tendu, on se demandait ce qui allait passer. Il y avait les journalistes qui venaient à la maison, il y avait plein d'allées et venues quand même. C'était un peu impressionnant, nous, dans notre tête d'enfant, on se demandait ce qui allait nous arriver. Enfin, moi, je me souviens avoir peur que notre père il aille en prison. Parce que, enfin, ils étaient rentrés dans la ferme de M. Gabin sans autorisation, forcément. Hein, donc.
Il y avait 3000 personnes sur la place du tribunal à Lançon. La place était pleine de monde, même les rues. Et c'est là qu'Hélène a parlé, pendant qu'on était, nous, au tribunal, pour être jugés.
Oui, ils m'ont fait monter sur une remorque. Puisque Bernard était au tribunal pendant ce temps-là. Pour expliquer pourquoi on n'était pas d'accord... Expliquer le but du procès, quoi. Et la place, elle était pleine de femmes.
Oh, pas que des femmes.
Beaucoup de femmes.
Oh, beaucoup d'hommes.
Mais il y avait énormément de femmes, quand même.
Et donc, il y a eu le procès, et il y a eu, je crois que c'est dans une cinquantaine de départements, où il y avait une mobilisation au moment du procès. Et je me souviens aussi que papa m'a dit, une fois que Jean Gabin donc qui fait du théâtre, de la comédie, des films, tout, un très bon acteur, je le reconnais. Quand il était à Alençon, en dernière minute, donc il a retiré sa plainte. Et je me souviens très bien que papa m'a dit « Toc, il est venu s'asseoir à côté de moi. »
Il était assis à côté de lui, oui, ça, je me souviens de ça.
Sur le banc des accusés, quoi.
Pour renouer avec les agriculteurs, qu'il aimait bien quand même, quoi, même si...
Oui, ça l'a beaucoup marqué, Gabin.
Gabin, celle-là. Il pensait être l'ami des agriculteurs, des paysans, ouais. Mais il n'a pas vu la chose venir, si vous voulez.
Mmh. Alors, ça lui a fait un gros choc.
Oui, ça lui a fait un choc, Gabin, à ce moment-là.
Et ça, papa le reconnaissait.
Ah oui, papa, oui. Il avait dit.
Jean Gabin, vous vous êtes désisté, et pourtant je crois savoir que Maître Florio, votre conseil, était d'un avis différent.
C'est exact, Florio était d'un avis différent.
RTF, 20 avril 1964.
Mais je ne vais faire que vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure devant le tribunal. Je me suis désisté parce que je pense que tout ça a été fait sous le signe de la maladresse. Et dans le fond, la maladresse, c'est pas tellement répréhensible. Et d'autre part, étant donné la situation actuelle, les rapports tendus entre les syndicats agricoles sur certaines revendications, qui sont fondées d'ailleurs, et le gouvernement, je ne voulais en aucun cas que mon nom soit une entrave à la bonne fin de ces pourparlers. Et j'ai dit, c'est pas Gabin, mais Montcorgé, qui retire purement et simplement sa plainte.
Monsieur Gérard Potier, 37 ans, fermier à Normandel, 88 hectares, a été condamné à 15 jours de prison avec sursis et 500 francs d'amende. Les 11 autres prévenus, eux, ont été condamnés à 500 francs d'amende. Tous ont décidé de faire appel. La Fédération nationale des exploitants agricoles, FNSEA, et le Centre national des jeunes agriculteurs, CNJA, ont aussitôt diffusé un communiqué commun de protestation. Le Monde, 2 mai 1964.
Leur gloire, c'était l'action. C'était pas le jugement derrière. Des actions comme ça, je pense qu'elles ont quand même permis de faire évoluer la réflexion sur le foncier, sur la maîtrise du foncier. Et c'est pour ça qu'il y a des outils de contrôle qui sont mis en place derrière.
C'est quand je reprends à mon père tout ce qu'il a fait, ça me bloque. Ce qu'il a fait, et ce qu'il n'a pas pu aller au bout de tout ce qu'il aurait voulu faire, ça me gêne.
Oui, c'est vrai qu'il a élevé. Ils ont élevé 6 enfants en même temps que plein de réunions et de choses, puisque j'ai beaucoup de présidents.
Qu'on lui a donné, quoi. Et quand il voyait des manifestations qui étaient organisées plus ou moins bien, il me disait toujours que je pourrais leur donner des cours. Parce que, si vous voulez, pour faire une action qui marque, quoi. Et si vous voulez, ils ont réussi ces actions-là parce qu'ils ont pris le temps de discuter au bout des tables. Ils ont passé, je ne sais pas, beaucoup de soirées à organiser, si vous voulez. Qu'aujourd'hui, tout va très vite. Et là, c'était des gens de terrain.
C'est un petit peu l'émotion, c'est de reconnaître, de voir ce qu'ont fait les parents, que nous, on serait incapables de faire, quoi.
Et puis, il y avait sans doute plus d'unité du monde agricole que maintenant.
C'était l'affaire Jean Gabin, un paysan vedette. Merci à Jean-Pierre Prévost, Denis Mousset, Bernard Mousset, Thierry Ganivet, Hubert Mousset, Édouard Lynch, Yannick Sansébé, Anne-Marie Paris-Mousset. Lecture, Anne de Peufeyou et Dominique Parent de la Comédie Française. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Une histoire particulière de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont. À venir, l'affaire Jean Gabin, épisode 2, la bataille des médias.